Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des Films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com.
Le chef-d'œuvre de l'horreur et de l'épouvante, Massacre à la tronçonneuse.
Au sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée au coffret Ultra Collector que consacre Carlotta Film avec un petit coup de main de TF1 Vidéo au chef-d'œuvre que Toby Hooper signa en 1974, Massacre à la tronçonneuse. Nous reviendrons en compagnie de Jean-Baptiste Torret, le critique et réalisateur de cinéma, auteur de l'ouvrage Une expérience américaine du chaos, Massacre à la tronçonneuse de Toby Hooper, sur ce film culte. Car Carlotta Film a eu la bonne idée de rééditer cet ouvrage épuisé depuis fort longtemps et de l'intégrer à ce magnifique Ultra Collector. Pour info, Une expérience américaine du chaos, Massacre à la tronçonneuse de Toby Hooper de Jean-Baptiste Torret est désormais proposée dans une édition augmentée. L'équipe de Culture Prohibée remercie Lucie Mautier pour son aide sur cette émission. Nous vous rappelons que cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, disponible sur le site de l'éditeur TheExtasyOfFilm.com, sur celui des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr, et chez tous les bons libraires. Massacre à la tronçonneuse va donc occuper cette heure d'émission. On a déjà beaucoup parlé du film dans l'émission à l'occasion des différentes éditions qui sont sorties. On avait pu recevoir Toby Hooper pour quelques mots. On avait aussi beaucoup échangé avec Julien Sévéon qui a écrit deux livres sur le film qui s'appelle, enfin sur la saga Massacre à la tronçonneuse, hein, qui s'appelle Massacre à la tronçonneuse 1974-2017, une odyssée horrifique. C'est paru chez Cinexploitation. Et aujourd'hui, on va être accompagné de l'illustre Jean-Baptiste Torret pour parler de ce coffret Ultra Collector, alors qui contient bien sûr le film en différentes qualités, dont un master restauré 4K, c'est ce qui fait l'intérêt de ce coffret, et également plus de 9 heures de supplément. Alors, pas tout vous détailler, de toute façon, si vous nous écoutez, c'est que vous vous êtes déjà jeté sur cette édition Ultra Collector. Mais surtout, dans ces bonus qui sont présents dans le coffret Ultra Collector, il y a une réédition de cet ouvrage, qui s'intitule donc « Une expérience américaine du chaos, massacre à la tronçonneuse de Toby Hooper ». Cet ouvrage signé Jean-Baptiste Torret, qui est le deuxième ouvrage de Jean-Baptiste Torret, le premier qu'il a signé en solo, qui était devenu introuvable, qui se vendait une fortune d'occasion. Donc là, grâce à Carlotta, on va pouvoir de nouveau lire cet ouvrage passionnant, l'un des plus complets proposés sur le film Massacre à la tronçonneuse. Et ce que je vous propose, c'est qu'on discute de l'ouvrage et aussi et surtout du film Massacre à la tronçonneuse avec l'auteur de l'ouvrage en question, Jean-Baptiste Torret. Donc tout de suite, Jean-Baptiste Torret au micro de Culture Prohibée. Bonjour Jean-Baptiste Torret.
Bonjour Jérôme.
Comment t'analyses le succès quand même de ce film? Parce qu'en fin de compte, là l'édition dont on parle, elle a été très vite épuisée chez l'éditeur. Il y a eu une précédente édition chez TF1 Vidéo. Bon là d'ailleurs c'est un partenariat TF1 Vidéo Carlotta Film qui avait été très vite aussi épuisé. Comment t'expliques le culte de ce film, le succès de ce film qui semble traverser les générations?
Écoute, Massacre à la tronçonneuse,
Enfin, le succès du film, je pense qu'il est d'abord à titre personnel, mais ça n'engage que moi. Hein, je pense que c'est sans doute le plus grand film d'horreur jamais réalisé. Et quand je dis film d'horreur, c'est pas le film gore, parce que précisément c'est un film qui en réalité ne contient pas de séquences à proprement parler gore. Il y a beaucoup de sang sur des vêtements, si tu veux, sur des marteaux, sur de la tronçonneuse, mais sur les corps en fait, en réalité, pas tant que ça. Donc je pense que il y a d'abord le sentiment que c'est, voilà, c'est une sorte de graal d'un film d'horreur qui, il faut quand même rappeler, à l'époque a été en grande partie considéré comme un film immonde, abject, hein, assassiné par la critique américaine et puis française, et qui peu à peu a acquis ses lettres de noblesse, voilà, qui sortira en France qu'en 82, donc quasiment 9 ans après, 8 ans après sa sortie en salle, et qui peu à peu est passé des marges, des catacombes de l'histoire du cinéma. Enfin, c'était quasiment les pornographes qui s'intéressaient à Massacre à la tronçonneuse dans les années 70, 80 et même un peu après. Et peu à peu, il a commencé à acquérir ses lettres de noblesse jusqu'à intégrer le musée d'art moderne de New York comme un grande œuvre du répertoire classique américain. Voilà, il a été présenté, il faut quand même le rappeler, à la quinzaine des réalisateurs à Cannes à l'époque. Hein, comme quoi, c'était un moment quand même de grand, d'expérimentation, de découverte. Ils avaient eu quand même le nez. Il a été représenté en 2014 au moment de sa restauration. Donc la première raison, je pense que voilà, c'est la façon dont un film comme ça est passé, on pourrait dire, de l'extrême marge jusqu'au statut quasiment de classique, intégrant le panthéon des grands films de l'histoire du cinéma américain. La deuxième raison, je pense que c'est sans doute le fait que le film coïncide avec l'explosion de la VHS et des vidéoclubs. C'est-à-dire que quand, à l'époque, on voulait voir Massacre à la tronçonneuse, après sa première diffusion à la télévision, moi je m'en souviens, j'étais encore ado, sur Canal+, il y avait les VHS, et notamment René Château, on se souvient tous des quelques films qui avaient été interdits, scandaleux, les fameux films que vous ne verrez jamais à la télévision, qui éditait René Château en VHS, avec lequel d'ailleurs il s'est fait une petite fortune, et qui était Zombie de Dawn of the Dead de George Romero, Maniac, et il y avait notamment Massacre à la tronçonneuse. Et ça a été un immense succès de vidéoclub, aussi bien aux États-Unis qu'en France. Il y avait cette espèce de film un peu interdit, qu'on se passait sous la main à l'époque. Donc voilà, je pense que Massacre à la tronçonneuse fait partie peut-être de cette dizaine de films qui ont fondé presque la mythologie du vidéoclub. Et pour des gens de ma génération, et même un peu avant, ça a été vraiment quelque chose. Enfin, Massacre à la tronçonneuse a été un film extrêmement important. Je me souviens, dans les années 80, la VHS coûtait 500 francs. On ne s'en rend pas compte, mais c'est quelque chose d'énorme. Donc on l'achetait à plusieurs, elle circulait. Et puis en plus, à force d'être vu, moi je me souviens que la qualité de la bande, évidemment, se dégradait, et qu'au bout d'un moment, le film devenait encore plus presque poisseux, sale et crade à force de vision et de revision. Ça devenait presque une sorte de home movie, presque un snuff movie à force d'avoir été vu et revu. Donc je pense que l'autre raison, en fait, du statut culte de Massacre à la tronçonneuse, c'est la façon dont il est devenu culte par le vidéoclub, d'une certaine manière. L'autre raison, mais je pense qu'il y en a plein, et chacun en aurait sans doute des dizaines, hein. L'autre raison, c'est que je pense que c'est aussi un peu comme le Assaut de Carpenter, réalisé d'ailleurs à peu près au même moment, une sorte de graal pour plein de cinéastes aspirants, c'est-à-dire un film réalisé avec peu d'argent. Alors on n'a jamais su exactement la somme, mais on est entre 160 et 250 000 $, donc c'est rien du tout. C'est quasi un premier film, c'est pas complètement vrai dans le cas de Toby Hooper, mais voilà, c'est quasi un premier film réalisé dans des conditions totalement artisanales, avec des gens absolument inconnus, et je pense que c'est le coup en fait que tout jeune cinéaste aimerait pouvoir réaliser, un peu comme le Assaut de Carpenter. Moi je pense que c'est deux films extrêmement importants de ce point de vue. Peut-être que l'autre raison, c'est la façon dont, rétrospectivement, quand on revoit l'histoire du cinéma américain et l'histoire des États-Unis des années 70, c'est une forme de quintessence absolue de ce qu'a été le cinéma américain des années 70. Tout est là. C'est-à-dire que la violence, la dimension chaotique, la façon dont le film repousse toutes les limites à la fois de la violence et de l'expérimentation, parce que je pense que c'est un film, Massacre à la tronçonneuse, qui est un drôle de mélange entre un film, on pourrait dire, extrêmement codé, avec un scénario extrêmement simple, je veux dire 5 vacanciers, sur une route du Texas, vont pour aller visiter une tombe, on prenne un mauvais chemin et se retrouvent pris par une famille de Texans dégénérés. Et en même temps, c'est un film expérimental, c'est que toute l'ouverture du film est phénoménale, toute la fin du film est absolument incroyable. Donc on a le sentiment comme ça d'un mariage assez fou, mais ce sont les vêtements, la mode du vanning de l'époque, la façon dont le film aussi est une sorte de palimpseste d'énormément de films. On sent que Tobe Hooper est un cinéaste cinéphile, il appartient à cette génération comme Joe Dante, Carpenter, Craven et d'autres qui ont vu beaucoup beaucoup de films, et le film est complètement nourri en fait de à la fois aussi bien, on pourrait dire, du cinéma que de la littérature, des EC Comics, que des faits divers, peut-être qu'on y reviendra. Donc je pense que il y a, et puis il y a peut-être enfin ce sentiment que et surtout dans les années 80-90, que c'est un film qu'on ne pourrait plus faire. En fait, je pense qu'il y a aussi, il appartient à cette mythologie des années 70, c'est-à-dire que c'est un film qu'on ne pourrait plus faire, et c'est aussi à une époque où il n'y avait pas une profusion comme ça d'images, tout simplement. Et peut-être la dernière raison, c'est le sentiment que quand on voit Massacre à la tronçonneuse, on comprend un certain état d'esprit de l'Amérique, un peu gueule de bois, désenchanté du milieu des années 70. Parce que Massacre à la tronçonneuse, c'est un film de 73, c'est en 74, c'est pas un film de la fin des années 60. Donc on sent, et Tobe Hooper l'a dit et redit, et peut-être par moments, peut-être qu'il a un peu forcé le trait rétrospectivement, quoi, pour dire oui, c'est un film qui commente l'Amérique des années 70, mais voilà, il y a quelque chose de la gueule de bois, de la fin du mouvement hippie, de la crise du Watergate, du fiasco au Vietnam. On sent que voilà, que c'est la seconde partie désenchantée qui s'exprime là, sur un mode totalement apocalyptique d'une certaine manière, quoi. Et puis l'autre chose, enfin l'autre, on en a déjà dit 15, mais l'autre chose, c'est vraiment le personnage de Leatherface. C'est une sorte de schéma en fait narratif qui sera pris et repris à n'en plus finir, et la plupart du temps mal compris ou mal considéré, quoi. Enfin voilà.
Oui, effectivement.
Je sais pas si c'est clair, mais
carrément, mais il y a tellement de choses en fait, et c'est vrai que du coup, bon, tu l'abordais à l'instant, t'en reparles toi dans l'édition augmentée de ton livre là qui est disponible dans le coffret ultra collector de Massacre à la tronçonneuse. Tu reparles de la jeunesse aussi de Tobe Hooper. Et on parlait à l'instant de faits divers. Il y a quand même deux faits particulièrement marquants, alors qui irriguent ce film-là, mais qui vont irriguer aussi tout un pan de la cinématographie américaine dans les années 70 et même au-delà. Deux faits incroyables. Tobe Hooper est à la fois, il est là le jour à Dallas où en 63, Jack Ruby tire sur Lee Harvey Oswald, et il est là en 66. Quand Charles Whitman, l'un des premiers tueurs de masse, qui a donc inspiré la cible de Peter Bogdanovich, d'ailleurs tu interviens aussi dans les bonus de ce Blu-ray-là, Carlotta, fait un massacre sur le campus de l'université d'Austin. Alors, ces deux faits-là, en quoi ils influencent son cinéma en particulier, et puis après, en quoi ils vont irriguer. Alors après, c'est partout, hein, c'est chez Pacula, c'est Oliver Stone, Coppola, De Palma, c'est un trauma américain, quoi.
Ben moi je pense si tu veux que le Massacre à la tronçonneuse, c'est un film qui arrive à un moment qui est une sorte de presque de point d'arrivée, où on dirait d'apax, c'est-à-dire que c'est une espèce de film qui est un film un peu buvard qui récupère sur peut-être une vingtaine d'années. Même si c'est un film qui va puiser dans une mythologie notamment du western, de la frontière, de la culture texane, etc. Ça, c'est pour les soubassements les plus anciens, mais qui récupère 20 ans en fait de formes de violence américaine. Et il faut pas oublier que la violence américaine, ou en tout cas telle qu'elle était montrée dans les films américains dans les années 40 et surtout dans les années 50, en gros avant Psychose, qui pour moi est le vrai film matrice de Massacre à la tronçonneuse, c'était une violence qui était toujours une violence exogène, c'était la peur des rouges, les invasions extraterrestres, avec voilà, le bien et le mal, le bien est américain, le mal est hors du territoire américain, enfin on connaît ça par cœur. À partir du début des années 60, tu cites l'assassinat de Kennedy et de Oswald par Jack Ruby, on rentre dans une ère complètement différente, qui on pourrait appeler l'ère du mal intérieur, du mal américain, ce qui fait que, d'une certaine manière, on n'a plus besoin d'aller chercher des extraterrestres ou des créatures venant de contrées un peu étranges pour aller parler du mal. Le mal, il est intérieur, ce qui va être tout le mouvement du cinéma américain des années 70, en gros, après La Nuit des Morts Vivants et Rosemary's Baby, à la toute fin des années 60. Et Massacre à la tronçonneuse, c'est, d'une certaine manière, la quintessence de ça. C'est-à-dire que Leatherface et sa famille de hillbillies dégénérés, tarés, enceints ouvriers de l'abattoir au chômage, c'est l'américanité pure. On n'est pas du tout, c'est pas l'étrange créature du lac noir, c'est pas un vampire qui vient de Transylvanie, ce sont pas des petits hommes gris dans leur soucoupe volante. Pas du tout, on est au cœur de l'américanité. Et je pense qu'une des, à mon avis, une des origines, une originalité même du film, c'est vraiment de faire de ce qui est le pleu, c'est de pousser le curseur de l'américanité jusqu'à en faire un film d'horreur. L'effet divers, quand Massacre à la tronçonneuse arrive en 1974, il ne faut pas oublier que les États-Unis sortent de 10 ans en fait apocalyptiques en termes de faits divers. Évidemment, les assassinats de Kennedy, de Malcolm X, de Robert Kennedy, de Martin Luther King, c'est devenu l'horreur américaine a complètement changé de visage. On est passé d'une horreur complètement fantasmatique, fictionnelle, lointaine, à une horreur quotidienne qui infuse tous les journaux télévisés. Faut rappeler qu'à l'époque, la guerre du Vietnam, il y a des nouvelles tous les jours qui sont balancées sur les télés américaines et sont autant de petits films d'horreur. Le napalm, les massacres, les exécutions, enfin, donc d'une certaine manière, entre l'effet divers que fournit la réalité et les images de l'actualité elle-même, dire l'horreur, elle est partout présente. Et je pense que Massacre à la tronçonneuse, moi j'aime pas du tout le titre français, pour être tout à fait honnête, je comprends le fait qu'il claque, sa dimension commerciale, etc. etc. Mais le titre américain, original de Texas Chainsaw Massacre, renvoie à la fois beaucoup plus à l'idée du fait divers, on a l'impression d'avoir une journal, et met le mot Texas dans le titre, ce qui est très important. Tu vois. Et donc cet ensemble de faits divers, en fait, va infuser, évidemment, le cinéma 15 et 110, va devenir le nouveau cinéma d'horreur. Enfin, regarde Délivrance, Satanant sur la gauche, ce ne sont pas des films, ce sont des films qui vont puiser, de cette manière, dans la mythologie américaine, le fait de l'horreur, et dans l'actualité américaine. Alors évidemment, l'assassinat de Jack Ruby, Charles Whitman ou autre. Moi, je me souviens, pour avoir souvent rencontré Toby Hooper, que c'est un jour, j'étais à Los Angeles et j'allais le voir, je ne sais plus pourquoi, mais j'allais souvent le voir quand j'allais là-bas. Et un jour, on part ensemble dîner dans c'était chez Pete Musso d'ailleurs, qui était son restaurant préféré à Los Angeles. Restaurant qu'on voit au début de What's Up in Time in Hollywood quand DiCaprio voit son agent Pacino, c'est là qu'il mange. Bref, petit aparté. et on dîne ensemble et Toby Hooper est quelqu'un qui n'était pas du matin du tout, qui commençait à émerger, il était toujours 13, 14, 15 heures et par contre il était plutôt de la nuit. Et on mange et on discute et je me rends compte au cours de cette discussion, chose que j'ignorais alors que j'avais écrit un bouquin. Ce bouquin sur lui il y a très longtemps, qu'il était, mais comme la plupart des cinéastes de sa génération, quand il était étudiant, absolument passionné par la politique américaine. C'était une bande, on pourrait dire, c'était une génération extrêmement impliquée dans les combats politiques, l'actualité, la Free Press, la contre-culture, le Watergate, la guerre du Vietnam. C'est des gens qui étaient extrêmement politisés d'une certaine manière. Et donc c'est comme ça, lui, qui se retrouve à travailler pour la télévision, et il est envoyé, comme il est texan, Toby Hooper, il habite à Austin, il est envoyé à Dallas pour couvrir ce qui va devenir le procès, ce qui aurait dû devenir le procès d'Oswald, et il se retrouve presque malgré lui, aux abords du commissariat quand Jack Ruby tire une balle dans le ventre d'Oswald. Et on commence à parler de ça, et moi je me souviens, c'était après que j'ai écrit un bouquin sur la séance de JFK sur le cinéma américain, enfin son assassinat, et je me rends compte que c'est un exégète absolu de l'histoire américaine de l'époque et de JFK. Mais on pense qu'évidemment, il n'y a que, ce qui est complètement faux, qu'il n'y a que Oliver Stone qui a été un pas du tout. Et au détail près, Toby Hooper connaissait tout, avait toutes les idées. Il faisait partie de cette génération, comme de Palma ou d'autres, qui avait été passionné par ça. Et il est aussi, tu l'as rappelé, le hasard veut qu'il soit sur la pelouse de l'Université d'Austin quand Charles Whitman va tirer depuis la tour, hein, qui va être aussi une une nouvelle forme, on pourrait presque dire, de violence, mais qui n'est pas une violence avec une forme de causalité. On tue pour se venger, pour gagner quelque chose ou autre, qui est vraiment la violence dénuée de signification. Et pour moi, la grande violence de Massacre à la tronçonneuse, c'est aussi ça. C'est la dimension presque insensée de la violence qui se déroule. Et je pense que quand on met tout ça dans une cocotte minute et qu'on mélange, on obtient de cette manière tout ce qui fait, pour moi, la puissance de Massacre à la tronçonneuse. Mais il n'est pas le seul de sa génération. Hein. Tu as cité Targhès de Bogdanovich, évidemment Brian De Palma. C'est une génération qui va être absolument marquée par cette idée que la violence réaliste, on l'a sous les yeux, elle est le produit de l'histoire américaine, de l'actualité américaine. George Romero, c'est pas autre chose non plus. Et que, d'une certaine manière, ce sont des films qui marquent une rupture énorme avec ce qu'a été le cinéma dit d'horreur ou de peur ou fantastique ou de l'autre, on pourrait dire, ou du mal dans les années 50. Quoi.
Vous écoutez Jean-Baptiste Torret au sujet du film Massacre à la tronçonneuse au micro de Culture Prohibée. Tu parlais de Psychose, alors Psychose qui fait aussi référence à Ed Gein, hein, fait divers aussi, macabre, célèbre, avec ce vieux chasseur qu'on retrouve chez lui, qui était un peu nécrophile et puis qui découpait des peaux et qui se faisait des habits avec, qui mettait sur son visage.
Oui, oui.
Ouais, dans le Wisconsin, évidemment. Et toi, tu écris hein, Toby Hooper va de Norman Bates à Leatherface. Tu dis, The Texas Chainsaw Massacre transforme la schizophrénie de Norman Bates en une norme, celle de l'Amérique au bord du chaos. Pour toi, on est vraiment dans une Amérique qui est... tu écris d'ailleurs aussi que Massacre à la tronçonneuse, c'est une fin absolue de l'histoire. Enfin, c'est des mots très forts. Tu penses que vraiment, on est là dans une Amérique qui est au bord du chaos? Parce que j'ai envie de dire, aujourd'hui, le chaos est encore... on a l'impression qu'il est encore plus prégnant de nos jours.
Oui, oui. Alors après, bon, je vais essayer de faire une réponse courte parce que tu vois bien que la question que tu me poses, il me faudrait 3 heures pour y répondre. Non, mais je pense que Massacre à la tronçonneuse, en fait, quand on le regarde dans le détail, et moi je t'avouerai à l'époque, je m'en souviens très très bien, quand j'écris le livre le plus difficile, alors c'est pas le travail en fait d'imprégnation, d'écriture sur le film, etc. C'est le fait de vivre pendant 5 ou 6 mois tous les jours avec les images du film, qui pour moi est un chef-d'œuvre. Mais moi je me souviens, pour te dire, à l'époque, mon fils était vraiment très jeune, je sais pas, il avait 3-4 ans, etc. Et il errait souvent dans mon bureau. Et je sais qu'il n'y avait pas un seul moment de Massacre à la tronçonneuse et presque même pas un seul arrêt sur image qui n'était pas porteur d'une sorte de violence. Je ne connais pas, même La Nuit des Morts Vivants, même Zombie, même The Thing, même les très très grands films d'horreur ont des moments où ont des images, on pourrait presque dire, un peu safe. Qu'on peut sortir de leur contexte et montrer à n'importe qui. Il n'y a pas une image dans Massacre à la tronçonneuse qui ne soit pas infusée par un sentiment de dégoût malsain ou d'horreur. Le moindre visage du frère paralytique Franklin, l'armadillo sur le bord de la route, le visage des gens, je ne parle même pas de tout ce qui se passe évidemment dans la maison, dans le cabinet de Leatherface. Donc c'est vraiment un film, quand je parle de chaos, c'est que c'est un film qui arrive à un moment de l'histoire américaine, d'immenses désillusions, parce que c'est aussi la crise pétrolière de 73, c'est le Watergate, c'est la guerre de Vietnam va être déclarée finie en 75, mais ça fait déjà quelques années qu'on sait que les Américains ne gagneront pas, c'est une espèce de gigantesque boucherie ou autre, et il y a une forme apocalyptique dans Massacre à la tronçonneuse, qui est d'ailleurs raconté aussi bien par le début du film, qui mélange à la fois le plus petit et le plus grand, la dimension cosmogonique de l'ouverture de Massacre à la tronçonneuse. On a l'impression de voir comme ça l'érection d'un mythe, mais d'un mythe négatif. Que ce soit cette espèce de tombe dont on ignore d'abord au début de profanation, de cadavres qui sont sortis, et le générique s'achève par cette espèce de travelling avant très très long sur un totem macabre et monstrueux, hein, dans le fameux cimetière de Newt d'ailleurs, que moi je suis allé voir au Texas, c'est cette espèce de stèle, pas le cadavre bien sûr, mais la stèle est toujours là, entre parenthèses, et jusqu'à la fin du film, et la danse apocalyptique de Leatherface tout seul qui fait tourner sa tronçonneuse sur la route, qui est à la fois une danse du chaos, une danse indienne, on appelle ça comme on veut. Et je pense que c'est un film qui est pétri d'eschatologie. Ce qui fait que c'est à la fois, on pourrait dire, un commentaire de l'actualité américaine, une forme de fatigue, presque de débordement. C'est le moment où on n'en peut plus des désillusions. Et d'ailleurs, l'Amérique se prépare à rentrer dans les années 80, hein, donc il y a cette espèce de trop-plein, de certaine manière, que va déverser le film, et puis en même temps, une façon de relier Massacre à la tronçonneuse avec les racines de la culture américaine. Je veux dire, c'est à la fois le Texas, le folklore, moi j'ai souvent pensé à The Searchers de John Ford en regardant le film, comme si le Massacre à la tronçonneuse s'installait dans le contre-champ de ce qui arrive à Debbie dans le film de John Ford. Donc, on ne sait pas ce qui arrive chez les Indiens, là on va filmer ce qui lui arrive, ce qui arrive à Sally lorsqu'elle débarque dans la famille de Leatherface. Donc je pense que c'est un film qui agit comme ça à énormément de niveaux, un niveau extrêmement réaliste d'un côté, très presque naturaliste, très 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 glauque, très direct, et en même temps un niveau complètement cosmogonique, sacré, le cabinet de Leatherface, les rituels complètement grotesques. C'est aussi un film qui emprunte beaucoup au grotesque auquel il s'adonne. Je me souviens bien dans le livre, à un moment donné, j'essaie de comprendre ça en me disant finalement, Massacre à la tronçonneuse, c'est la façon dont une famille de gens qui ont été mis au chômage, ce qui est aussi un commentaire à la fois le chômage, la désindustrialisation de l'Amérique dans les années 70, c'est une famille qui tente de mettre de l'ordre dans le chaos, mais c'est un ordre grotesque. C'est le petit cabinet qui fabrique, c'est la poule encagée, c'est les rituels qu'on maintient de façon ridicule, le grand-père qui doit quand même abattre encore sa dernière victime, en l'occurrence Sally, etc. Donc je pense que c'est les deux niveaux qui en font, à mon avis, un film assez remarquable. Et tu parlais de Psychose. Moi, je crois tout simplement parce que Toby Hooper, c'est à la fois un film qui a l'air d'être un film, on va dire, extrêmement, on pourrait dire, sensoriel, presque comme ça, réactif au premier degré, presque documentaire. Il y a une dimension documentaire dans le film qui renvoie évidemment au fait qu'à l'époque, l'horreur parvient sous une forme documentaire, que ce soit le Vietnam, que ce soit l'assassinat de Kennedy ou autre. Les images d'horreur depuis la fin des années 60 sont des images d'horreur documentaires. Ce n'est pas des images d'horreur qui viennent de films de fiction, quoi, grosso modo. Et c'est assez passionnant de voir que Toby Hooper, il est à la fois du côté de documentaire, mais il a en même temps une très grande culture du cinéma. Et on voit bien que, je ne sais pas moi, pour ceux qui ont vu The Old Dark House de James Whale au début des années 30, on retrouve des traces de cette espèce de film comme ça, un peu macabre, ironique, distancié, dans le repas de fin, lorsque Alice c'est un lapsus intéressant. Lorsque Sally se réveille attablée et attachée et qu'elle découvre voilà, le repas et les dégénérés, les tarés qui sont autour d'elle. Et d'ailleurs, Toby Hooper l'a souvent dit. Alors moi, je pense qu'il a un peu forcé le trait en disant « mais moi, j'ai voulu tourner une comédie noire ». Et je lui ai souvent dit, je lui ai dit, bah, peut-être, mais bon, le premier sentiment qu'on a devant Massacre à la tronçonneuse, c'est pas un sentiment de comédie noire, comme l'était All Dark Out de James Whale, par exemple. Pas du tout. Mais il faut pas quand même biffer la dimension quand même ironique du film. Il y a par moments on atteint une telle forme de grotesque, une telle forme de délire qui serait entre James Whale et puis Buñuel, que on a voilà, il y a quand on revoit le film plusieurs fois, une fois qu'on a passé après 15 visions le choc hallucinant. Quel film où tous ces plans, ces images, que c'est un film qui est extraordinairement bien réalisé, quoi. On commence à voir affleurer, on pourrait dire, la dimension ironique. Mais Psychose, pour moi, je pense que c'est de là que ça sort. C'est-à-dire que c'est évidemment les deux, Massacre à la tronçonneuse et Psychose d'Hitchcock, et partant surtout du, quand même, du script de Joseph Stefano, ont une origine, il y en a plusieurs, mais une origine commune qui est, tu le rappelais, l'affaire Edgin, tu vois, il est découvert, arrêté en 57. En plus, Toby Hooper est voisin de ce fait divers-là. Il habite tout proche, il est dans à peu près la même zone. Et c'est partie de ces histoires un peu terrifiantes qu'on se raconte au coin du feu, hein, le boucher cannibale qui faisait avec la peau de ses victimes, des lampes, des abat-joues. Enfin, il y a quelque chose de terrible. Il est avec Psychose d'Hitchcock, ils vont puiser à la même matrice Edgin, mais je pense qu'on revoit dans Détail Massacre à la tronçonneuse les effets, on pourrait dire, de liens. C'est même pas de citation, c'est la façon dont Toby Hooper va plonger dans Psychose et presque en révéler le contre-champ ou le refoulé. D'ailleurs, moi j'ai toujours été frappé par la façon dont on pourrait presque dire que le Massacre à la tronçonneuse est une sorte, alors là je force le trait, mais une forme de remake déguisé de Psychose. Là, c'est pas un personnage qui est Marion Crane, Janet Leigh dans le film d'Hitchcock, qui au bout de trois quarts d'heure voit sa route violemment interrompue lorsqu'elle pénètre dans le motel de Norman Bates. Là, on a la même chose, des vacanciers type post-hippie, lisant des guides astrologiques, pensant faire un certain trajet là aussi violemment interrompu, et ils vont tous y passer les uns après les autres, la maison de Leatherface étant presque une sorte d'équivalent du Bates Motel de Hitchcock. Il y a mille exemples comme ça. Évidemment, la maison de Leatherface est une forme de relecture de la maison de Norman Bates, si ce n'est que l'horreur se trouve à l'étage, en l'occurrence le couple monstrueux de cadavres des grands-parents qui est comme ça conservé à l'étage, avec même la touche ironique de Toby Hooper. On voit cette espèce de petit chien malingre qui est même là, qui complète le tableau à la Norman Rockwell, un peu putrescent, quoi, que filme Toby Hooper. Donc même l'architecture de la maison est une reprise inversée de Massacre à la tronçonneuse. L'ouverture de Massacre à la tronçonneuse, où on déterre comme ça ces espèces de cadavres pour ériger un totem qui va devenir le nouveau dieu du film, cette espèce de dieu du chaos, de la mort, de l'humain considéré comme de la viande, etc., est presque une reprise du mouvement de Psychose, lorsqu'on voyait les autorités draguer et sortir du marais la voiture de Marion Crane, comme si le film de Toby Hooper commençait à ce moment-là précisément. Et on a le même mouvement, on pourrait dire, de déterrement, d'excavation, si on veut, de ce qui est sous terre. C'est ça l'idée de Massacre à la tronçonneuse. Tout ce qui a été refoulé va maintenant venir à la surface. Donc, de façon très mécanique, tout ce qui était à la surface va retourner sous terre. Ce qui fait qu'on a une inversion générale dans le film. Et le plus dérangeant dans le film, c'est ça. C'est la façon dont on pourrait dire tout ce qui était en dessous est maintenant à la surface. Les cadavres sont en plein air, en pleine lumière, ils sont en train de pourrir. Et tout ce qui est du côté de la vie, c'est-à-dire ces jeunes vacanciers typiques des années 70, etc., eux sont déjà considérés comme de la viande. Et le film fait qui est très très brillant de ce point de vue-là. En fait, ne cesse en fait d'associer, on pourrait dire, la vie et la mort, enfin la vie, le corps de ces jeunes vacanciers avec leur devenir viande. Ça, c'est quelque chose. Pour moi, c'est ça la grande violence de Massacre à la tronçonneuse, et aussi évidemment de sa mise en scène. Moi, je me souviens combien, en regardant le film que j'ai vu des dizaines de fois, c'est vraiment une question que je me posais très souvent en me disant mais d'où vient le sentiment de violence et d'horreur qui infuse tous les plans de Massacre à la tronçonneuse. Voilà. Pour moi, il n'y a pas d'équivalent dans l'histoire du cinéma. Il y a des très 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 grands films. Hein. The Thing est un film, par exemple, et un des plus grands films d'horreur aussi jamais réalisé, peut-être le meilleur Carpenter, mais c'est une alternance de moments de pause, de respiration, et puis de déchaînement de l'horreur. Dans Rosemary's Baby, dans La vie des morts vivants, il y a peut-être un temps sur la gauche de Wes Craven en 72 qui s'approche un peu esthétiquement de ce que va être Massacre à la tronçonneuse. Mais dans Massacre, il n'y a pas un plan qui n'exude pas quelque chose de l'ordre de l'horreur, du devenir viande, du cadavre, etc. Et je me disais en voyant le film, je me disais, mais évidemment, il y a mille raisons à ça, mais l'une des raisons, c'est la mise en scène de Toby Hooper, évidemment, et c'est la façon dont il retourne tout, et le scandale est là. Ce qui fait horreur, c'est la façon dont c'est quand les choses ne sont pas à leur place. C'est Kristeva qui parlait de l'abjection, justement, c'est la transgression des limites. Et le fait que les choses ne soient pas à leur place rend le film par moments difficile à regarder. C'est que les humains sont considérés comme de la viande, les cadavres sont érigés comme des humains. Peut-être qu'on parlera d'après de Leatherface, qui est pour moi un très très beau personnage. Et donc cette espèce d'inversion se traduit aussi dans la mise en scène de Toby Hooper. C'est que moi, je me souviens, lorsque Sally arrive sur le bord, le perron de la maison, dont on ne sait pas, on ne sait encore rien. Donc voilà, elle est avec son petit copain, Kirk. Donc ils discutent tous les deux. Et puis à un moment donné, Kirk lui fait une blague et dépose dans sa main une dent qu'il vient de trouver. Enfin, à ce moment-là, on pourrait dire que la séquence ou l'événement en soi, n'a aucun intérêt. Mais ce qui rend cette séquence déstabilisante, et c'est le cas de tout le film, c'est la façon dont Toby Hooper le filme. D'un seul coup, on essaie de zoom avant extrêmement violent, et de la même manière, mais de façon totalement inversée, quand Leatherface se saisit du corps de Pam et va l'accrocher au boucher, au crochet de boucher, il n'y a quasiment pas une goutte de sang. Tout le monde, y compris même dans les commissions de censure, ont l'impression d'avoir vu des choses terrifiantes, alors que tout est hors champ, tout se fait par le montage. Autre lien avec, évidemment, le film Hitchcock, Psychose, c'était la grande leçon de Psychose, hein, c'était un raccord pour un coup de couteau. C'est qu'on croit qu'on a vu un coup de couteau, mais en fait, c'est le raccord qui a fait le travail. Le fameux assassinat de Marion Crane dans la douche. C'est ce que fait Toby Hooper. C'est la mise en scène, c'est le découpage, au sens presque strict du terme, qui produit le sentiment de violence. Mais la violence dans l'image elle-même, elle n'est pas si importante que ça. C'est la mise en scène. Et on comprend avec cette espèce d'exemple de la dent ou l'exemple de Pam accroché au crochet de boucher, qui mettent en œuvre Toby Hooper met en œuvre la même stratégie. C'est-à-dire, grosso modo, filmer de façon scandaleuse, anormal, quelque chose de totalement ordinaire, je dépose un objet dans la main de quelqu'un, et filmer de façon totalement normale et anodine quelque chose de monstrueux. En l'occurrence, accrocher quelqu'un au crochet de boucher, s'en aller comme si de rien n'était, ce à quoi on assiste est incroyable, incroyablement violent, mais Toby Hooper le met en scène de façon très simple, trois plans, et il est parti. Ça, c'est génial, et tout le film est comme ça, c'est-à-dire de filmer d'une façon presque normale, neutre, des choses qui sont insupportables, scandaleuses, et inversement. C'est-à-dire que tout ce qui a l'air normal, un van qui se déplace dans le décor, le moment où on voit les bovins apparaître, le fou qui est renversé, la façon dont un laveur de vitres a l'impression qu'il sort de Délivrance et est en train de nettoyer les vitres, c'est des choses toutes bêtes qui ont l'air normales deviennent à ce moment-là des choses totalement monstrueuses.
écoutez Jean-Baptiste Toré, auteur de Une expérience américaine du chaos, Massacre à la tronçonneuse de Toby Hooper, édité par Carlotta Film, au micro de Culture Prohibée. Dans ton livre, toi, tu cites Bataille, l'intensité, l'exaspération ouais. des sens. Tu parles de cinéma pulsion. C'est aussi une expérience sensorielle pure, parce qu'au niveau du son, la bande son est démente. Il y a aussi tout un héritage qui vient de Eggshells, qui est son film d'avant, qui est un héritage aussi qui vient du cinéma. Alors expérimental, alors il a fait du cinéma expérimental, mais il y avait toujours un petit fond vériste dans ce qu'il faisait malgré tout. Mais on est quand même dans quelque chose à la limite effectivement, il va aux limites de ce que le spectateur peut supporter. Tout cela en utilisant tous les paramètres que permet la mise en scène, c'est-à-dire aussi bien le son que l'image. Enfin, c'est un film en fait qu'on analyse dans tous les sens, mais qui a aussi un côté presque miraculeux. D'ailleurs, qui va vampiriser la carrière de Toby Hooper. Il retrouvera pas, même s'il va faire d'autres grands films, mais il retrouvera pas cette formule magique par la suite, quoi.
Oui, mais parce que je pense que après, c'est un peu ce que je raconte moi dans la préface. C'est c'est toujours pareil. C'est quand on fait un film pareil, voilà, c'est à la fois une immense chance extraordinaire d'avoir fait un film qui appartient en fait au domaine de la pop culture. Je pense que c'est le Graal, d'une certaine manière, pour tout cinéaste, c'est de faire un film à un moment donné qui dépasse le champ de la cinéphilie ou le champ des critiques ou de l'histoire du cinéma pour intégrer la pop culture. Quelques cinéastes ont réussi à faire ça, notamment à cette période-là. Je veux dire, c'est le cas de Toby Hooper, Massacre à la tronçonneuse. Même les gens qui ne connaissent pas le film ou qui n'ont pas vu savent ce que c'est. Ou croient savoir ce que c'est. C'est-à-dire que je me souviens il y a très longtemps d'une pub pour, je sais plus, pour des piles ou pour du café qui parodiait Massacre à la tronçonneuse. C'est-à-dire que là, c'est l'accomplissement absolu quand on a réussi à faire un film qui dépasse complètement le cadre de son art. Voilà, ça a été le cas de Toby Hooper, ça a été le cas de Friedkin quand il fait L'Exorciste, ou ça a été le cas de Palma quand il fait Scarface. C'est que c'est des cinéastes. Friedkin nous a quittés il n'y a pas longtemps. Moi, je me souviens, un jour, j'étais avec lui, il était à Paris, et on se baladait dans la rue, et je le filmais. J'avais un projet à l'époque de documentaire sur lui, qui finalement c'est pas fait, et je le filmais. Et une bande de touristes arrive, c'était il y a, je sais pas, une quinzaine d'années, hein. C'était avant la folie des portables, voilà. Et vient me voir en me disant, mais puisque vous filmez cette personne, c'est sans doute cette personne est importante. C'est qui, grosso modo? Et je leur explique, je dis, c'est un réalisateur, c'est pas William Friedkin. Personne ne savait qui c'était, c'est des touristes allemands, néerlandais, etc. Ah bon, je leur cite des films comme ça, Sorcerer, Rampage, Tully Van Dynel, personne, même French Connection, personne ne connaissait rien. Et je leur dis, c'est celui qui a fait L'Exorciste. Et là, tout le monde, c'est l'homme qui a fait L'Exorciste. Et on voyait bien que y a Friedkin avec et sans L'Exorciste. Et Toby Hooper, c'est la même chose. Si ce n'est que Toby Hooper, quand Friedkin fait L'Exorciste, il le fait au sein du Major. Quand Toby Hooper fait Massacre à la tronçonneuse, c'est un tout petit film indépendant. Et c'est ce qui va lui. Ça va être à la fois sa plus grande chance et sa plus grande malédiction, puisque Massacre à la tronçonneuse, c'est un film qui ne peut avoir lieu qu'une fois. C'est le moment où, enfin, sans mauvais jeu de mots, toutes les planètes ou tous les astres s'alignent. Mais c'est même pas dû au talent de Toby Hooper, parce que je trouve que son Texas Chainsaw numéro 2, qui tourne au mi-temps des années 80 avec Dennis Hopper, est totalement estimable et extrêmement intéressant. Mais on est au milieu des années 80, l'époque a changé, tout a changé, et le moment génial où toutes les planètes s'alignent, qui est celui de Massacre à la tronçonneuse, ne peut plus avoir lieu. C'est autre chose. Alors évidemment, ça a contraint Toby Hooper, mais un peu comme Romero, hein, Romero qui adorait les chaussons rouges de Michael Powell et qui rêvait de faire un Tarzan. Il a été toute sa vie contraint de rester, ne trouvant des budgets ou de l'argent que pour rester dans le cinéma d'horreur. Et encore, s'il arrivait à sortir des zombies, c'était déjà bien. Toby Hooper, c'est la même chose. C'est qu'il il restera. Il a été toute sa vie le père de Massacre à la tronçonneuse. Il n'a jamais pu faire autre chose. C'est à la fois tragique et en même temps génial, tout simplement. Mais je pense que Massacre à la tronçonneuse, et je pense que Toby Hooper a eu l'intelligence, là pour le coup, de ne jamais vouloir refaire Massacre à la tronçonneuse. Il a fait comme il a pu le Texas Chainsaw 2, évidemment. Il a fait d'autres films, Poltergeist, que je trouve être un film passionnant, Le Crocodile de la Mort, qui est un film compliqué, qui est presque, là pour le coup, une sorte de codicille sudiste de Massacre à la tronçonneuse. C'est fait 2-3 ans plus tard, mais on voit déjà que tout a changé, c'est-à-dire que la sauce ne reprend pas de la même manière. Et donc voilà, je pense que quand tu dis effectivement c'est un film d'un seul coup, oui, bien sûr, mais y a Massacre à la tronçonneuse ne pouvait être fait qu'une seule fois. Quand on voit tous les remakes qui ont été faits ou autres, c'est impossible. C'est que c'est une texture, 16 mm, c'est une époque, c'est une préoccupation, c'est un moment. Massacre à la tronçonneuse ne pouvait arriver qu'à ce moment-là, c'est 73. Voilà. Et après, c'est fini, quoi. Tout simplement.
Oui, oui, non, mais après, il y a aussi. C'est pas le vrai titre, Fun House, qui va s'appeler Massacre dans le train fantôme, qui est un super film,
Fun House, je trouve. Voilà, qui est un film absolument formidable, et qui d'ailleurs est un film qui vraiment, à mon avis, anticipe vraiment tout ce qui sera le slasher méta post-scream à la fin des années 90. Je pense que, et même un peu Freddy. C'est-à-dire qu'en fait, Fun House, il a déjà tout dit. C'est-à-dire que c'est un film qui est absolument remarquable, qui anticipe ce moment à la fois des années 80, qui raconte ce moment où, au milieu des années 80, le slasher est arrivé, le rapport à l'image et à l'horreur de l'image a complètement changé. Il y a une forme de, c'est presque plus blasé. Il y a cette idée que l'horreur est quelque chose qui s'est répandu et en même temps qui ne fait plus mal. Et c'est ce à quoi va confronter les jeunes partis dans cette espèce de parc forain au milieu du film. Et moi, je pense que Fun House est vraiment un de ses grands films, pour le coup. Pour moi, c'est le grand moment de Toby Hooper. Hein. C'est Massacre à la tronçonneuse, Fun House, même Poltergeist que j'adore. Tellement c'est un film qui travaille contre Steven Spielberg et même Texas Chainsaw 2 est un film absolument passionnant, quoi.
On peut pas se quitter sans évoquer ce personnage central, d'autant plus qu'il y a des liens entre le tueur de Fun House et le personnage de Massacre à la tronçonneuse, Leatherface. Ouais. Et moi je trouve que les autres films passent un peu à côté d'une chose que je trouve très intéressante dans le premier film, c'est l'ambiguïté sexuelle en fait de ce personnage, qui est un personnage qui n'arrive pas à positionner. C'est un enfant et sexuellement il se positionne pas. Est-il femme, est-il homme? Je trouve que de ce côté-là, le film pose des questions et c'est absolument passionnant. Et c'est en fin de compte quelque chose qui a disparu, jusqu'à être complètement gommé d'ailleurs par le film de Bustillo et Mori récemment, où on va hétéronormer quelque part le personnage de Leatherface, alors que c'est un personnage beaucoup plus ambigu et passionnant que ça.
Oui, bien sûr, mais moi, tu parles de Leatherface. Moi, je vais te dire, il y a dans Massacre à la tronçonneuse un moment clé. Il y en a évidemment beaucoup, mais je veux dire un moment clé qui, pour moi, est presque une forme de moment de bascule dans l'histoire du film d'horreur américain. On parlait de la séquence lorsque Pam rentre, elle tombe, elle découvre le cabinet d'horreur, elle voit la poule encagée, les plumes, les concoctions macabres, horribles, très, très beau moment d'ailleurs, puisque je veux dire, le trop plein de vision lui donne envie de vomir et elle vomit. Ça, c'est vraiment une pétition de principe de ce qu'est le film. Et à un moment donné, c'est l'image, le montage, les gros plans qui font vomir à ce moment-là. Moins, presque moins que ce qu'elle voit. Le coup, par exemple, de la poule encagée dans une cage toute petite, c'est pour moi une idée absolument formidable. Bref, et elle se prépare à sortir et surgit pour la première fois du film. Il tire son rideau de fer. Laserface donc, il la saisit par la taille et là en trois plans c'est réglé, il l'accroche à un bouchet et il referme l'espèce de rideau de fer comme ça. Premier coup de génie, d'ailleurs moi dont j'avais parlé à Toby Hooper à l'époque, j'avais dit ce qui est génial dans cette séquence là, c'est le fait que Toby Hooper, contrairement à mon avis à n'importe quel cinéaste, ne coupe pas le plan après que le rideau soit fermé. Il fait durer 2-3 secondes, le rideau fermé devant nous. Comme si on nous empêchait, hein, comme si ce qui se passait maintenant derrière était vraiment l'horreur. Et là, il y a quelque chose de génial, cette idée de faire durer le plan qui nous interdit d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté, qui est presque encore une horreur supérieure. Bon. Et juste après le meurtre, donc il y a Pam, il y a Kirk, etc. Et puis il y a ce moment où, jusqu'au meurtre de Kirk, grosso modo, on est face à une sorte de figure, je dirais presque un peu, pas cliché, mais un peu classique de la, voilà, du monstre qui surgit et qui va dézinguer pendant tout le film des victimes innocentes. Bon, en fait, en soi, c'est pas forcément, en tant que personnage, très intéressant. Et puis il y a ce moment où Toby Hooper va suivre Laserface après ses exactions. Laserface va s'asseoir au bord de la fenêtre, il s'assied, il a presque la main entre, c'est ce que j'ai choisi moi comme couve du bouquin, parce que pour moi c'est le plan central du film d'une certaine manière, et la caméra s'approche, on s'approche d'une date de Laserface, et on voit d'un seul coup ses yeux d'enfant, un peu apeurés, cette espèce de lèvres un peu lipues, etc., et il regarde autour de lui comme un gamin qui vient de faire une bêtise. Voilà. Et ce qui est génial à ce moment-là, c'est que Toby Hooper, après nous avoir montré la part, on pourrait dire négative, simplement monstrueuse, mais en fait moralement assez confortable, oui, ça c'est le mal et nous on est du côté du bien, etc., il va chercher mais une image intolérable, hein, presque un peu comme Peter Lorre dans Le Maudit de Fritz Lang, il va chercher l'humanité de cette personne dont on a vu les actes monstrueux. Et ça, c'est extrêmement dérangeant. Et ça, à mon avis, ça dessine une ligne de fracture vraiment dans ce qu'est le cinéma d'horreur américain. Moi, quand je pense à Toby Hooper, je pense souvent à John Carpenter, parce que je pense que c'est deux cinéastes qui ont un rapport totalement opposé. Ils partagent plein de choses, la génération, des goûts, un goût pour la subversion, pour l'ironie. Ils se connaissaient, ils s'appréciaient, bien entendu. Mais du point de vue, j'ai presque envie de dire d'un point de vue politique et moral, ils sont totalement à l'opposé sur l'échiquier. C'est que Carpenter est du côté du mal absolu, plus le film progresse, plus le mal devient abstrait et pur, d'une certaine manière, alors que chez Toby Hooper, c'est complètement le contraire. On part avec un personnage qui est tout pour être une espèce de Michael Myers avec une face de cuir, et en fait, peu à peu, il va l'humaniser. Et tu parlais évidemment de son côté homme-femme, enfant, adulte, cette séquence qui avait été coupée, au cours de laquelle il se déguisait, il était un des trois stades, parce qu'il a trois types de masques différents, et on le voit grossièrement mettre du rouge à lèvres, se poudrer, etc. etc. C'est qu'on est avec un personnage qui, en fait, qui est une sorte, qui n'est pas du tout évidemment un adulte, mais qui est un personnage qui se situe avant que les grandes catégories de l'humain se constituent. Où est le bien? Où est le mal? Où est moi? Où est l'autre? Où est l'humain? Où est l'animal? Où est l'homme? Où est la femme? Il est avant ça. C'est vraiment une espèce de gamin. Et donc, quand Toby Hooper va chercher en gros plan l'humanité de ce personnage, d'un seul coup, il fait basculer le film d'horreur américain des années 70 complètement ailleurs. Et je trouve ce plan génial, ce qui fait que Laserface est vraiment un personnage qui est, moi c'est ma théorie, c'est que le film, en fait, c'est pas des vacanciers qui n'ont rien demandé, innocents, ordinaires, de telle manière, contre une famille maléfique, violente ou autre. C'est un film qui ne montre que des victimes. Ils sont victimes de choses différentes, mais c'est ça le côté totalement tragique, et là je ne parle pas d'horreur, de tragique, déprimant, eschatologique du film. Hein, ce qui fait que quand on en est là, il n'y a plus que, d'une certaine manière, la précipitation du monde vers sa fin, pour que quelque chose éventuellement renaisse. Et le film, après la plupart des suites ou des remakes ou autres, évidemment, ça n'a aucun sens de remake et Massacre à la tronçonneuse. Ça n'a, enfin, aucun sens. Mais, et surtout, la plus grosse erreur, c'est de faire de, Leatherface un monstre. Leatherface n'est pas un monstre, en réalité. Il rentre dans le film comme un monstre, en fait, assez rassurant pour tout spectateur. Hein. Je veux dire, tout ce qui est de l'ordre du monstrueux ne m'appartient pas. Non, il rentre dans le film comme un monstre, et peu à peu, il va l'humaniser. Autrement dit, il va le victimiser. Comme disait l'autre, voilà, Leatherface aussi a ses raisons. La famille, le Texas, l'isolement, le chômage, etc., 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 etc. Ce qui fait que, en réalité, le film, et qui s'achève sur le départ de Sally et la danse indienne de Leatherface, c'est un film où il n'y a que des victimes. Voilà, il n'y a que des victimes dans le film, et Leatherface en fait partie. Et pour moi, c'est un des plus beaux personnages de ce qu'on appelle le film d'horreur. Moi, la catégorie film d'horreur, pour être tout à fait honnête, c'est pas très intéressant d'une certaine manière. Les gens, c'est jamais très intéressant pour aborder les films. Mais or, ce Massacre à la tronçonneuse est bien au-delà de ça. Hein. Est-ce que c'est un film d'horreur ou pas? En fait, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que voilà, Leatherface, c'est vraiment un des personnages les plus passionnants hein, que crée le cinéma américain des années 70 à ce moment-là. Et je pense que le choix que fait Tobe Hooper de s'approcher de lui et de ne pas le garder à distance, ce qui aurait été au fond très très commode, d'en faire une histoire de puissance comme ça qui nous fait peur, il surgit, ou fait moi peur. Bon, là pas du tout. Il va chercher son humanité. Et ça c'est assez courageux, ce qui fait de Tobe Hooper là pour le coup un vrai cinéaste progressiste, comme l'était par exemple George Romero, ce qui n'est pas le cas du tout de John Carpenter.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee, aidé à la technique par Damien Demey, dit La Bête Noire de Compiègne. And the last but not the least, je veux bien sûr parler à l'architecture sonore de l'ensemble, de Léo Manien. Salut les gens, à la prochaine.